moi, il y a ce qu'on appelle lointain au théâtre, le fond de scène. On sait bien que là-bas demeure le mystère de l'immontrable. Le peintre ne cache rien, il est devant et derrière sa toile. Elle le révèle. La peinture advient et emporte tout. Nous, au théâtre, sommes devant une image éphémère et des imaginaires convoqués. On laisse advenir ce qui est caché derrière les mots, les faits et gestes du théâtre, dans l'attente inquiète qu'il n'y ait rien derrière le mur du lointain, rien à voir que l'effroi initial. Macha Makeyev est ce soir notre invitée à l'occasion de sa revisitation de Molière et de ses femmes savantes Trissotin au théâtre de la Scala à Paris, mais aussi à l'occasion de la publication de son nouveau texte intitulé « Zone céleste ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Françoise Hardy.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. De choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses, c'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
À quoi pensait la petite fille que vous étiez, Macha Makeyev, quand dans le jardin de la ville de Lyon, vous étiez abrité avec votre frère sous la table du jardin et que la pluie mitraillait la table et que ça faisait beaucoup de bruit.
Je pensais à beaucoup de choses. Je pensais surtout à ce qu'on avait au-dessus de la tête qui nous protégeait un moment. Et je cherchais déjà des histoires pour nous protéger, justement. Sans en avoir vraiment conscience, il me semblait déjà vérifié que la fiction était quelque chose qu'on ne pouvait pas nous prendre et qu'elle était une forme d'empathie et que c'était un ailleurs qui allait nous sauver de tout et qu'on pouvait partager. Et donc je mettais beaucoup d'énergie à inventer des histoires pour ce petit garçon qui était assis à côté de moi.
Vous avez même décidé, par solidarité envers votre petit frère, de ne plus aller à l'école. Ça a duré un temps.
Oui, en fait, on l'a décidé pour moi. Après l'éblouissement de la maternelle, il a été décidé dans le monde adulte que je devais rentrer et ne plus avoir mes pinceaux, mes peintures et cette pièce que j'aimais tant. Mais revenir auprès de lui. Mais ça n'a pas posé vraiment de problème. J'y ai vu un peu déjà quelque chose qui ressemblait à un destin. On est retourné sous la table, sous l'escalier. On a continué à ramasser des objets. J'ai essayé qu'il ait un peu moins peur de la vie. Voilà, ici, de l'évoquer comme ça, c'est après tout, c'est parler de l'enfance, et probablement que se joue là le coup de dé qui fait que toute votre vie, vous allez raconter des histoires pour les autres, et pas seulement pour soi-même.
Ni pour le petit frère.
Non, le petit frère devient grand, et puis de toute façon, le partage des eaux est ainsi fait, vous allez d'un côté, lui de l'autre, parce qu'on estime que vous devez aller à l'école, et vous lui lâchez la main, et c'est pas si simple, et toute la vie, vous pensez à la main que vous avez lâchée, et que la vie, comme ça, n'est pas égalitaire. Voilà. Et en même temps, il y a forcément une revanche dans le fait de raconter des histoires, et probablement quelque chose à consoler de ce côté-là. Et puis aussi, mine de rien, un devoir de réjouissance. Savoir que la pluie qui tombe sur la table en métal, c'est aussi un son étonnant qu'on va pouvoir ne jamais oublier, même au théâtre reproduire.
Aujourd'hui, Masha Makeyev, et ce depuis des décennies, vous savez raconter des histoires avec des gestes, des corps, des lumières, des costumes. Vous êtes metteuse en scène. Ces histoires-là, vous les avez conçues dès la haute enfance. Votre frère est toujours votre petit frère, mais les histoires, ça marche plus. Le pouvoir de la fiction ne peut pas entamer sa propre souffrance.
Non, mais c'est comme un devoir maintenant. Les choses sont avancées, sont proposées comme ça, et les histoires, si les histoires reculent un peu le désastre, les histoires font que pendant 1h30, 2h. Justement, il est question d'autre chose, on va ailleurs ensemble, on n'y va jamais seul, au fond, on n'y va plus jamais seul. Et c'est le miracle du théâtre, et en même temps aussi, on y entraîne une troupe, et plus le temps passe, et plus je vérifie que cette histoire racontée avec le corps des autres, avec la voix des autres, avec leur énergie, leur propre imaginaire, c'est un immense privilège. C'est quelque chose qui maintenant est organique pour moi. Je la cherche, la troupe, tout le temps. Quand elle est plus là, je me dis, mais où sont-ils? Et j'aime beaucoup, même quand j'ai d'autres activités, j'aime beaucoup arriver même à la fin du spectacle et être en coulisses avec eux, puis quelquefois même enfiler un costume et les rejoindre sur le plateau incognito, comme ça, pour justement partager ce lieu étrange qui est la scène. Et il y a une chaleur incroyable, il y a quelque chose qui nous épargne les bruits du monde un moment pour raconter d'autres choses à la fois intimes, mais on sent avec le public un échange qui est, oui, qui est chimique, qui est étonnant, qui donne surtout une raison de vivre. Une raison de vivre et une raison de continuer à fabriquer tout ça avec cette troupe, avec cette équipe technique, avec tous ces alliés. Parce que faire du théâtre, c'est embarquer avec tant d'autres talents, ceux qui font la lumière, le son, ceux qui fabriquent les costumes. Et puis ces acteurs qui sont quand même des êtres qui resteront pour moi absolument mystérieux, toujours un peu intimidants. Et même s'il y a quelque chose maintenant de fraternel, il y a toujours le mystère l'emporte toujours.
Vous faites partie d'une famille qui était très nombreuse. Vous vous racontiez des histoires et vous faisiez talent de pouvoir les construire, ces histoires, extrêmement jeunes, Masha Makeyev. Aujourd'hui que vous êtes à la tête, et vous êtes une des rares femmes du théâtre public aujourd'hui à diriger une grosse institution comme celle de la Criée à Marseille, est-ce que vous pensez qu'enfin vous êtes arrivée à bon port, sans faire de mauvais jeu de mots, et est-ce que vous avez réalisé vos rêves d'enfant, ou est-ce que le fait de vous raconter des histoires quand vous étiez petite était une nécessité dont vous avez fait finalement un art?
Oui, en fait, le sac de toile que l'on avait, Georges et moi, pour ramasser des objets et puis les remettre sur la table et raconter des histoires. Après tout, j'ai toujours les mêmes rituels. Simplement, je vous dis, ils sont dans le paquebot, il y a d'autres compétences, des gens qui m'étonnent, des gens que j'admire, des gens qui me surprennent, des gens qui me bousculent. C'est ça une troupe aussi, c'est ardent, ça bouge, mais on peut traverser beaucoup de choses avec ces gens-là, ces artistes qui vous accompagnent, toutes ces compétences qui vous accompagnent, mais après tout, oui, on reste au plus près du pacte qui s'est conclu toute petite.
En même temps, il y a l'apprentissage. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez en ce moment même à Marseille et depuis maintenant quelques années, vous êtes à la tête de la Criée. Vous êtes née à Marseille.
Oui.
Ensuite, il y a eu rupture violente dans votre histoire familiale puisque vous êtes retrouvée à Lyon. Aujourd'hui, comme quoi la vie est constituée de cycles, retour à Marseille. Mais il y a eu aussi un apprentissage du théâtre. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui a été votre professeur à Marseille quand vous étiez une jeune fille, Macha Makeyev. C'est Pierre Barbizet. Pierre Barbizet qui va parler de la souplesse du corps de l'acteur et de sa manière de diriger le Conservatoire de Marseille. Écoutez.
Écoutez ça. Je me sers de mes doigts pourtant, mais c'est mon corps qui joue. Or, là, je ne rédis pas. Je suis parfaitement souple, regardez-moi. Je suis comme un gnome de cathédrale. Alors que si je me sers uniquement mes doigts, regardez, c'est pas ensemble. Et là, c'est ensemble. Et c'est pas le même son. Là, je me rédis. J'ai l'air souple, non? J'ai l'air souple. Eh ben, je suis raide. Allez, faire comprendre ça aux petits Français. J'étais très intéressé par la pédagogie. Et je ne trouvais pas ça difficile. J'ai senti que j'étais dans ma peau. Et comme directeur de Marseille, puisqu'il faut dire les choses comme elles vous sortent des tripes, je sais très bien que je suis un directeur peu conforme au schéma donné pour définir un directeur. Un directeur de conservatoire, il est payé pour diriger un conservatoire. Et qu'est-ce que vous voulez? Et c'est normal, non? J'ai des principes d'artisan. C'est comme si vous nommiez un plombier président de la République.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Barbizet, qui a été votre premier mentor. Macha, il dit quelque chose, je crois, très important, que vous continuez à faire vivre à l'intérieur de votre travail de metteuse en scène, mais aussi de directrice d'une grande institution culturelle, c'est être dans sa peau. Savoir être dans sa peau, finalement, c'est tout un travail. Ça n'arrive pas comme ça.
Moi, j'ai beaucoup aimé être initiée au théâtre, parce que c'est lui qui m'a le plus apporté, Pierre Barbizet, qui m'a confirmée dans le fait d'être à ma place. Et d'avoir été initiée à ça par un musicien, je vais jamais oublier. J'ai jamais oublié que les conservatoires, notamment, nous ont séparés très vite et que, au départ, il y avait vraiment une année commune entre les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les acteurs, et qu'on était sur le même plateau ensemble. Et après, la spécialisation fait et même géographiquement, on n'est plus ensemble du tout dans les écoles, et comme c'est dommage. Mais cet homme était là, quand il parle de la souplesse, Pierre Barbizet, il était à l'étage. Moi, j'allais souvent à l'étage, je m'asseyais devant sa porte et je l'écoutais jouer du piano parce que c'était un extraordinaire pianiste. Mais lui descendait très souvent, il disait, j'en ai marre des musiciens, je viens un peu voir les théâtreux. Et il traînait sur théâtreux. Et c'était quelque chose c'était une apparition parce qu'il arrivait justement de l'étage, c'est-à-dire qu'il arrivait de la musique et donc il nous regardait différemment et il nous apportait quelque chose de la souplesse justement, de la souplesse de savoir qu'il faut vraiment être initié aussi aux autres arts, et que le théâtre, c'est aussi ça. C'est aussi la somme de tous les autres arts. Je veux dire, il n'y a pas de théâtre sans la musique, vraiment. La musique, la voix, le travail sur la voix, il n'y a pas sans la lumière aussi, sans le corps. Les danseurs, c'est tellement essentiel de fréquenter, de se frotter à eux avant de se mettre à jouer. Enfin, voilà, Pierre Barbizet, c'est une rencontre vraiment qui m'a probablement, à un âge extrêmement difficile, 15 ans, 16 ans, absolument sauvée de ce qu'on appelle à cette époque-là une certaine désespérance. Donc je l'aime beaucoup, oui.
Qu'est-ce qu'un corps au théâtre? Vous avez inventé avec Jérôme Deschamps une compagnie, les Deschiens. Vous avez inventé aussi un art de faire du théâtre en nous montrant en pleine lumière les différentes manières qu'a le corps de s'écrouler, de faire du bruit, de partir dans tous les sens, comme si c'était une affaire d'horlogerie à la seconde près. Et petit à petit, dans votre art scénographique, Macha Makeyev, vous avez développé un art de la simultanéité entre ce qui sort du corps de vos acteurs, à savoir un texte, le plus souvent, ce qui n'était pas forcément le cas dans la période des Deschiens, et l'émotion que nous, spectateurs, nous pouvons ressentir. Donc, des corps et des visions des corps, vous en avez eu plusieurs.
Oui, et je pense qu'on n'oublie pas l'expérience. Ce qu'on a fait avec Jérôme, c'était montrer des gens privés du discours, au fond, qui étaient tellement à côté du monde, tellement pas à l'intérieur de la marche du monde, qu'ils se taisaient. Et dans ce taire, il y avait une éloquence incroyable, notamment celle des corps. Donc c'est quelque chose que avec lequel je fais toujours. Ce qui m'intéresse quand je vois un acteur, une actrice, c'est évidemment ce qui se dit. Même quand on s'empare d'un grand texte, notamment là, Les femmes savantes, ces Alexandrins magnifiques, on a travaillé comme une partition. Eh bien, il faut vraiment travailler la partition de façon à ce qu'après ce soit plus du tout un écran, mais que ce soit tellement intégré que quelque chose se dise au-delà du texte. Et réduire les personnages de Molière, en l'occurrence, simplement à ce qu'ils disent, c'est vraiment appauvrir le théâtre. Et au contraire, une fois qu'on a bien compris ce texte, qu'on l'a bien intégré, qu'on l'a aimé vraiment et qu'on l'a d'une façon saisi vraiment d'une façon organique, après, chaque personnage n'est pas que ce qu'il dit. Il est absolument dans une ambivalence. Et c'est ce qui se passe, après tout, entre les mots, avant et après les discours. Le corps trahit toujours le fait que le discours n'est pas entièrement la personne. Comme dans la vie, on peut tenir un discours tout fait, et en même temps, on est en train de regarder quelqu'un qui est dans le coin de la pièce ou derrière une vitre, et on se dit, tiens, cet homme a un visage qui me rappelle quelqu'un. Et on continue le discours, mais ce que l'on est en train de vivre est à côté du discours. Et le théâtre, c'est ça. Bien sûr que c'est la beauté de la langue, mais il y a quelque chose d'un mystère après et entre les mots qu'il faut faire entendre. Le corps est extrêmement éloquent de ce point de vue.
C'est pour cela que, sans doute, votre mise en scène de Trissotin et des femmes savantes s'inscrit dans une contemporanéité où les mots de Molière nous percutent de plein fouet, comme s'ils étaient actuels, comme s'ils évoquaient des mises en perspective de problèmes auxquels nous nous affrontons. Mais c'est parce que il y a un rythme, il y a une cadence, il y a une manière de faire les costumes, il y a une rapidité, il y a un humour qui fait que ça danse et ça virevolte, cette langue de Molière. Alors je n'oublie pas, Macha Makeyev, que après Pierre Barbizet, vous avez eu comme maître, et vous n'êtes pas la seule, et vous avez été très chanceuse et très chanceux, vous et les autres de votre génération, vous avez eu Antoine Vitez comme Professeur, Antoine Vitesse est celui qui nous a fait redécouvrir Molière aussi, en montant plusieurs pièces de Molière, en enlevant tous les costumes et en mettant que la langue, des corps, des langues et de la vitesse pour qu'on comprenne l'étourdissement et le génie de la langue de Molière. Je vous propose d'écouter Antoine Vitesse qui va donner sa vision de la mise en scène qui, selon lui, est par essence impossible. Archive INA, 14 juillet 1975.
Ce qui me plaît au théâtre, c'est l'impossible. Il n'y a de mise en scène que quand il y a la mise en scène de l'impossible. Je vous donne un exemple. Pour moi, monter Hamlet, par exemple, prendre Hamlet et puis chercher le nombre de comédiens correspondant au nombre de rôles en essayant qu'il soit le plus proche des personnages. Qu'est-ce qu'ils sont les personnages, qui a décrit comment ils doivent être, ça c'est très difficile à savoir, mais enfin généralement dans ce cas-là on s'appuie sur une espèce de tradition ambiante, les habiller avec les costumes qu'il faut, et puis jouer la pièce avec quelques coupures pour que ce soit pas trop long. Si vous voulez, même si c'est bien, même si c'est astucieux, c'est le possible, et c'est à mon avis désespérant. Ce n'est pas de la mise en scène, je crois, ce n'est pas de l'art. Je crois qu'il n'y a art que lorsqu'il y a la contrainte qui rend la chose impossible dans des conditions ordinaires et par conséquent qui permet d'inventer ce que j'appellerais la nécessité-vertu.
Voilà, au moins c'est clair, c'est assez compliqué donc de faire de la mise en scène puisque par définition c'est impossible.
Oui, que dire après ? Ce que dit Antoine Vitesse, c'est difficile de prendre la parole après lui parce qu'il est, à l'exact endroit qui fait qu'on... L'exact endroit où on se trouve quand on commence à travailler et quand on travaille et une fois qu'on a fini, la question est toujours ouverte. Et moi, je me suis saisie de la part plastique du théâtre pour rendre compte de ça aussi. Bien sûr, il y a la langue, il y a les corps, mais il y a aussi tout ce que les objets peuvent exprimer, mais aussi les couleurs, le fait que ce soit rêche, que ce soit lisse, le fait que ce soit mat, que ce soit brillant, le fait que ça s'arrête ici ou là, qu'un objet fasse obstacle, qu'un accessoire encombre l'acteur ou au contraire le rassure. Voilà, toute cette part plastique-là, le fait qu'on enfile une pièce de costume et que ça évite un discours. Voilà, moi je suis allée plutôt par là pour essayer justement de donner un peu de l'impossible. Mais en même temps, ce qui m'importe, c'est le plaisir rétinien du spectateur et de celui ou celle qui rentre dans la salle et qui peut-être n'entendrait pas du tout le discours, qui comprendrait pas du tout notre langue pour telle ou telle raison, ou qui ne voudrait pas l'entendre comme certains adolescents, et bien qu'ils reçoivent quelque chose du théâtre qui ne peut pas leur être retiré, c'est-à-dire, oui, la part plastique, là. Les sons, la couleur, le mouvement des choses, un objet saisissant, le mystère de cet objet-là, pourquoi cet objet-là dans un jardin, et qu'est-ce qu'il va devenir, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il nous raconte des personnages, est-ce qu'un personnage va s'en saisir ou pas, et je pense toujours à celui ou celle qui n'entendrait pas les mots et qui pourtant entrerait de plein pied dans le spectacle.
Toute petite, Macha Makeyev, vous collectionnez les objets rebuts, ceux qu'on destine aux poubelles. D'ailleurs, vous continuez, vous êtes une grande chineuse, vous continuez à aller chercher dans les friches industrielles ou dans les périphéries des grandes villes, des objets cassés, des objets abîmés, des objets qu'on voudrait voir effacés du monde. Mais vous, pour vous, ces objets-là, ce sont justement les objets les plus importants et c'est peut-être ainsi que commence l'élaboration poétique et politique de vos mises en scène. C'est par cette collection, cette accumulation comme une sorte, dans une sorte de caverne d'objets dont personne ne veut que tout d'un coup l'imaginaire va commencer à fonctionner.
Oui, ça commence comme ça, mais ça a toujours commencé comme ça puis jusqu'à la fin.
Vous êtes bien la seule, hein.
Ah bon, ça sera comme ça, c'est-à-dire que effectivement je pars en reconnaissance en fait. Je pars en reconnaissance d'objets et il me semble que je les reconnais. Je les saisis.
Vous leur parlez.
Oui, il me parle aussi beaucoup et je les pose sur une table ou dans une pièce comme à la fabrique à la Criée où avant c'était mon atelier à Paris et ils sont là et au bout d'un moment il y a une espèce de ronde des objets de présence qui fait que tout d'un coup à l'intérieur de ça aussi de bouts de tissu etc il y a une palette qui se constitue et c'est avec ça qu'on va raconter l'histoire. Parce qu'ils contiennent de l'humanité, ils contiennent du temps, et puis précisément parce que à cause ce que vous dites exactement, Laure, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle à Marseille dans cette langue magnifique les marques mâles, c'est-à-dire après tout ceux qui oh là là qui détonnent, ils sont pas exactement comme il faudrait que l'on soit là dans l'instant, et pourtant ces marques mâles ont une élégance et surtout une éloquence incroyable. C'est ce qu'ils contiennent d'humanité, puis aussi du temps, et puis aussi de l'humour, parce que ils nous décalent tout le temps, ils sont décalés, ça marche pas, c'est ils sont sur le côté. Et en même temps, il y a vraiment une vraie beauté dans ce qui est abîmé. Voilà, ce qui est abîmé, cabossé, dans ce qui n'entre pas dans la marche du monde comme on voudrait que ça aille. Et je pense que la confrontation de ce qui va devenir une part du décor et une part des accessoires, c'est-à-dire au fond les compagnons des acteurs et des actrices, je pense que se joue là quelque chose d'essentiel. S'il n'y a pas ça, moi je ne peux pas avancer. S'il n'y a pas cette rencontre, s'il n'y a pas des équivalences entre elle et eux, je peux pas avancer. Donc je prémédite beaucoup. Ils sont là très en amont, ils sont là en avance. J'arrête pas de les déplacer, de les bouger. Je peux pas m'empêcher de descendre les voir très souvent. Mais en même temps, c'est aussi pour préméditer un espace pour que les acteurs arrivent. Enfin, je veux dire, c'est pas pour mon simple plaisir, mais je sais aussi que c'est la trace d'un mutisme que j'avais avant et j'avais beaucoup de mal à parler. L'idée de parler à des acteurs me paraissait quasiment impossible. Donc, je parlais aux objets. Et puis, un jour, en parlant aux objets et en présentant des objets, le discours aux acteurs s'est fait beaucoup plus facilement. Je sais que je préfère habiller les acteurs et leur parler de ce qu'ils vont enfiler plutôt que de leur faire des grands textes dramaturgiques où je raconterai que j'ai un peu d'avance sur eux, que j'ai lu beaucoup avant eux, que je suis extrêmement intelligente et oh là là, oui, vous savez, moi j'ai lu toutes les biographies et puis j'ai fait toute l'analyse prosodique avant vous et regardez, donc je vous en prie, taisez-vous, écoutez-moi. Non, je pense que eux, ils nous apportent, ils sont assez mystérieux les acteurs. On dirait quelquefois que justement, si on a bien prémédité, ils ont la grâce, donc quelque chose advient. Et ça, c'est au fond, ce que je préfère le plus au théâtre, ce qui me touche le plus, c'est ça. C'est ce moment où advient quelque chose comme un aveu, où tout d'un coup, le moment de théâtre se met à exister. Précisément parce qu'il y a eu énormément de travail de préméditation poétique avant, et que c'est pas la peine de leur faire des grands discours. Les choses vont arriver. Le discours, quelquefois, c'est parce qu'on sait pas. Alors je leur dis, bon, ben, je vais vous parler parce que je sais pas comment on va faire. Et voilà, c'est un interlude un peu, un interlude de l'intelligence un peu nécessaire. Voilà. Mais ce qui advient avec eux, c'est cette rencontre entre la chose inanimée et leur corps et leur psychisme et comment ils vont s'emparer de ça et des lieux aussi. C'est pour ça que dessiner le décor, c'est très important parce que c'est déjà une proposition aux acteurs. C'est une proposition bien sûr à l'œuvre, mais aussi aux acteurs.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Macha Makeyev, Placebo et David Bowie.
Take it by your side. such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side.
Tick tock. Tick tock. Tick tock.
Tick tick. Tick, 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 tick. I'm unclean, a libertine, and every time you vent your spleen, I seem to lose the power of speech. You're slipping slowly from my reach. You throw me like an evergreen. Never seen a lonely me at all.
Nous irons joyeusement jusqu'au bout de nos hantises. Le théâtre, comme la littérature, est un jeu grave, intuitif, prémonitoire, mais reste un jeu. À cause d'un acteur inclassable, tombé de la lune, à cause d'une chose ramassée dans le caniveau qui bouleverse le rêve, à cause de nos fous rires enfin, ceux des inconsolables, je sais, autant qu'au premier jour, rien n'a été perdu. C'est ce que vous écrivez, Macha Makeyev, dans ce très beau livre qui s'intitule « Poétique du désastre ». Et je crois comprendre qu'à l'intérieur de votre histoire d'amour avec le théâtre, avec toutes les disciplines qu'inclut le théâtre, puisque vous êtes à la fois costumière, vous mettez en lumière, vous dirigez les acteurs, vous faites la mise en scène, eh bien il y a de plus en plus d'autobiographies. Je ne veux pas dire par là de recherche de vous-même, mais de recherche de coïncidence avec vous-même. Petit à petit, vous êtes approché, non pas de vos origines, ce mot un peu trouble, mais de votre propre histoire qui vous dépasse. Je veux parler du travail que vous avez fait il y a quelques années sur Isaac Babel. Je veux parler de ce que vous avez fait il y a très peu de temps et qui, j'espère, va être repris un peu partout, la fuite d'après Bulgakov. Et je veux parler du nouveau projet que nous allons découvrir cet été au cours du Festival d'Avignon avec Lewis Carroll. Comment s'est opéré ce cheminement intérieur? Est-ce que ce sont les mots du théâtre qui vous ont conduit vers plus de lucidité vis-à-vis de vous-même?
Écoutez, c'est savoir avec le destin et savoir avec le hasard. Mais et le hasard, pour peu qu'on fasse un peu attention, le hasard est, contient une forme poétique incroyable. Lewis Carroll, c'est vraiment le hasard. C'est un peu comme, je vous dirais, Brian Molko et David Bowie. Voilà, j'avais lancé ces mots-là quand on me demandait qu'est-ce que vous allez faire après Bulgakov, alors que j'étais pleine de Bulgakov. J'ai voulu me débarrasser, j'ai dit ça. Et après, on dit, voilà, ce hasard poétique, eh bien, c'est une proposition dans la vie. Mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois que je...
Vous croyez au hasard?
Je crois au hasard et à sa part d'invention qu'il contient, à sa malice. Oui, je crois beaucoup à ça. Mais je pense que chaque fois que j'ai monté un spectacle, j'en suis pas toujours consciente au début, j'y vais à l'intuition, mais il y a toujours une accroche personnelle, bien sûr. Sinon, j'aurais l'impression d'être un metteur en scène qui monte un texte et de faire quelque chose qui ne m'impliquerait pas assez pour que je puisse, pendant un an et demi, penser chaque jour à ça et surtout avoir ce rendez-vous brûlant avec le public le jour de la première. Donc il faut... Il y a toujours une accroche personnelle, la fuite évidemment, 1920-21, l'exil des Russes blancs, pas à pas, c'est vraiment tout ce que j'ai entendu dans mon enfance et mes grands-parents sont dans l'histoire. Enfin, je veux dire, ils sont là, tous les deux, je les vois. Et la petite fille est montée sur scène aussi, à qui on racontait cette histoire. Avec Lewis Carroll, oui, au début, j'ai pas compris pourquoi j'avais dit ça. Et puis, à force de lire et de travailler, je me rends bien compte que quelque chose nous lie. D'abord, notre goût des fantômes, notre goût des fées, du surnaturel. Mais aussi être un numéro dans une fratrie, être comme un passager clandestin toute la vie, l'éducation religieuse qui fait qu'on sait qu'il y a des ailleurs comme ça, des ailleurs rêvés, des prophéties, des choses invraisemblables qui font échapper à la réalité. Et puis cette enfance inconsolable aussi, oui. Voilà, donc mais sur l'instant, je savais pas pourquoi, mais c'est en travaillant aussi qu'on comprend où est l'accroche personnelle. Et puis après, l'accroche personnelle, il faut l'oublier, parce qu'on fait ça pour une autre forme d'empathie. Le théâtre, c'est pour d'autres qu'on ne connaît pas. Et je trouve que une des grandeurs du théâtre, c'est de travailler pour des gens qu'on ne connaît pas. On saura pas leur nom. Ils seront passés comme ça, ils auront attrapé l'histoire, ils seront repartis. Ça, c'est vraiment la noblesse du théâtre.
Nous avons retrouvé un document de Marguerite Duras. Marguerite Duras travaillait aussi beaucoup pour la radio et elle adorait travailler avec les enfants. Nous avons retrouvé un document sonore où Marguerite Duras va présenter Lewis Carroll et ses lettres à des enfants et elle va parler d'Alice. C'est une archive INA du 2 janvier 1963.
Dans le parc de Christchurch, l'une des sections de l'université d'Oxford, en 1855, trois petites filles jouaient chaque jour. C'étaient les filles du doyen de Christchurch, les petites Lidwell, Lorina, Edith et Alice. Alice était la plus jeune, elle avait 3 ans et demi. Cette même année, Charles Ludwig Dodgson, qui n'était pas encore Lewis Carroll, venait d'obtenir son diplôme de licencié S-lettres à Christchurch et il venait d'être nommé à la bibliothèque de cette même université. La bibliothèque de Christchurch donne directement sur le parc de l'université, de telle façon que les bibliothécaires et les enfants qui jouent dans le parc font aisément connaissance. Je crois, raconte Alice, bien plus tard,
je crois que le début d'Alice nous fut conté par un après-midi d'été où le soleil était si brûlant que nous avions dû mettre pied à terre au milieu des prés sur le chemin du retour, abandonnant la barque pour nous réfugier dans l'unique coin d'ombre que l'on put découvrir, lequel se trouvait sous une meule de foin fraîchement coupée. C'est là que de nous trois vint l'habituelle pétition. Racontez-nous une histoire. Et ainsi commença le conte immortellement délicieux.
Il ne reste aucune lettre de Lewis Carroll à Alice, enfant. Les lettres qui vont être lues sont donc adressées à d'autres petites filles qu'Alice Lidwell. Toutes ont été brûlées sur les ordres de Madame Lidwell en 1865, après une brouille survenue entre Madame Lidwell et Lewis Carroll, lorsqu'Alice atteignit l'âge de 13 ans. C'est-à-dire lorsqu'elle sortit de l'enfance pour devenir à jamais différente de la petite fille qu'il avait connue il y avait de cela 10 ans. Cette trahison de la nature provoqua chez Lewis Carroll, d'ailleurs, une crise très grave, un véritable traumatisme dont jamais, sans doute, il ne se remit tout à fait.
Dans cette mise en scène à laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment même, Macha Makiev, c'est Lewis qui vous intéresse ou c'est plutôt Alice?
J'allais dire, c'est la même chose pour moi. La démonstration qui sera faite, on va tenter de faire tous ensemble, les 7 acteurs et toute l'équipe. C'est ça, après tout, dans le scénario que j'ai écrit, c'est un logicien et qu'il y a des logiques incroyables dans la vie. Après tout, ce Lewis, qui s'appelait Charles Edwidge Dodgson, effectivement, qui a passé 47 ans à Oxford et qui n'était bien qu'avec les enfants, qui restait à cette hauteur-là, qui était bègue, et avec les enfants, il bégayait un peu moins. Bon, il était incurable, donc il bégayait forcément, mais ce rapport au langage et à l'impossibilité de dire les choses avec dans la fluidité, ce psychisme-là qui fait qu'on est bien, à cette hauteur-là, qui est une hauteur juste avant la métamorphose. C'est-à-dire, on voudrait s'arrêter, comme dit Alice, 7 ans, 7 ans et demi. 7 ans et demi, c'est trop tard. Et voilà, on va faire la démonstration extrêmement, tout à fait excentrique, c'est difficile de parler d'une chose qu'on est en train de préméditer, vraiment, je le vérifie. Mais voilà, moi, ce qui m'importe, c'est de dire quelle est la petite fille qui est à l'intérieur de Lewis, si ce n'est Alice. Évidemment, il l'a inventée, mais c'est plus que ça. Il la porte. Il la porte et il regarde le monde à partir définitivement depuis cette petite fille de 7 ans qu'il a en lui. Et je vais peut-être encore un peu plus loin. Je pense que c'est vraiment un transgenre qui existe. Il y a des hommes et des femmes qui continuent toute leur vie à transporter cette petite fille à l'intérieur d'eux-mêmes qui leur permet de raconter des histoires d'une certaine façon. Je crois que je les repère un peu maintenant. Je les repère parce que Georges, mon frère, est de ce genre-là. Et j'ai trouvé chez Lewis aussi un équivalent. Lewis qui est d'abord Charles, ce garçon demi-sourd, complètement bègue, mal dans son corps, mais si drôle. Un mathématicien, mais qui invente des histoires. Voilà, il est ce numéro 3 d'une fratrie de 11. Ce garçon qui porte le même nom que son père et qu'il va forcément décevoir. Enfin, toute chose qu'on va raconter aussi, où on va faire allusion dans le spectacle, mais qui sera un spectacle comme je pense il l'aurait aimé, c'est-à-dire totalement excentrique et très musical. Et où la langue anglaise sera présente parce que c'est difficile de faire entendre Lewis Carroll sans faire entendre la langue anglaise. Mais il y est question de l'effroi et de l'enfance, quelque chose aussi de cette terreur de décevoir en grandissant, comme si avoir grandi était un scandale. Et ce rapport à l'enfance est... Voilà, c'est quelque chose qu'on va raconter. On va le raconter, j'espère, comme c'est très grave, avec beaucoup de légèreté et beaucoup de voix, et des voix magnifiques, parce que j'ai des acteurs qui chantent, qui vont danser aussi. Et il y a Rosemary Stanley qui a cette voix tout à fait étonnante. On parlait de grâce, mais la grâce passe souvent par les voix. Là, tout à l'heure, on a entendu Brian Mulcahy et David Bowie. C'est la perfection et l'imperfection mêlées, la voix. Et c'est pour ça que c'est absolument étonnant et aimanté. Voilà. Et puis il y a des personnages qui vont se succéder. Il y a forcément des citations comme ça de théâtrales. Parce que dans ce récit, il y a des personnages. Alors, on va tirer parti de tout ça, mais l'énigme que Duras évoque à sa façon, d'ailleurs, parce qu'il y a autant de Lewis Carroll qu'il y a de gens qui le racontent. Et dans le Lewis qu'évoque Duras, il y a justement ce personnage incomplet, énigmatique, puisqu'effectivement, il a été censuré. censuré par sa propre famille, mais bon, c'est une époque victorienne. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de censure qui en passent souvent par la simplification, notamment des artistes.
Alors, vous êtes une artiste, Masha Makeyev. Vous êtes une plasticienne autant qu'une metteuse en scène de théâtre. D'ailleurs, vous êtes aussi une commissaire d'exposition. Il y a très peu de temps, vous aviez fait une exposition sur Venise. Vous faites des livres qui sont des objets graphiques. Vous introduisez à l'intérieur de la maison théâtre que vous dirigez à Marseille l'ethnologie, la confrontation. Je n'oublierai jamais que, personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai connu l'association SOS Méditerranée la première fois. C'est parce que vous aviez convié cette association, qui siège d'ailleurs à Marseille, avec des migrants sur le plateau de votre théâtre, pour parler de leur désarroi, de leur solitude, de leur route, de leur déroute, etc. etc. Vous êtes en train de préparer, dans très peu de temps d'ailleurs, 2 ou 3 jours sur l'abolitionnisme, pour parler des marges de notre société, dont on parle très très peu. Je veux parler de la prison, de la vie quotidienne à la prison, et de toutes ces associations qui permettent à des artistes de rentrer dans les prisons et d'apporter de la culture aux prisonniers qui eux aussi y ont droit. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui avait accompli plusieurs chemins et vous avez changé depuis pas mal de temps. À l'image d'une autre artiste que vous aimez tant, que nous aimons tant et qui vient de disparaître. Alors, j'ai beaucoup hésité à vous faire écouter une archive, mais je vais le faire. Parce que la radio nous le permet, je comprendrai que vous soyez extrêmement étonné et en même temps peut-être très ému. Il se trouve que nous nous sommes retrouvés dans le cimetière du Montparnasse, parmi une foule assez gaie et joyeuse, en écoutant du rock. C'était l'après-midi même de l'enterrement d'Agnès Varda. Nous avons retrouvé une archive où Agnès Varda parle de vous. Écoutez.
Masha Makeyev est une créatrice extraordinaire, une artiste, une rêveuse, une utopiste. Depuis le temps qu'elle travaille, j'ai des souvenirs tout mélangés et très beaux. Les déchiens qu'elle faisait avec Deschamps, mais des spectacles, je me souviens d'un défilé de femmes de ménage, très bien habillées en femmes de ménage. Je me souviens, oh mon Dieu, d'une exposition où tout était désastreux, le lait était cassé, les objets étaient trouvés aux puces. Et puis, son atelier, plein de bazar qu'elle utilisait d'une façon ou d'une autre. Elle a écrit des pièces de théâtre. Et alors, par exemple, à Marseille, c'est certainement là où il y a les plus beaux programmes du monde. Les programmes de la Criée sont des petits livres épais, pleins d'images, surréalistes, floues, amusantes. C'est-à-dire qu'elle arrive à rendre les choses officielles, charmantes, utiles et en même temps spontanées. Moi, j'adore cette femme. Et je regrette qu'elle habite Marseille parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Mais je trouve que sa passion pour les Russes maintenant, le spectacle qu'elle a fait, sa passion, elle est allée là-bas. Elle va, elle cherche tout le temps des idées. Et elle le fait d'une façon tellement vivante, tellement drôle. Je trouve que c'est une femme extraordinaire, tout simplement. Je l'embrasse et je l'aime.
C'est une... Oui, c'est un enregistrement qui a été fait le 13 octobre 2017. Et voilà, si j'ai choisi de diffuser ce soir en direct, je savais bien que vous seriez ému, Masha. Mais je pense que c'est important de faire comprendre les différentes dimensions de votre être poétique et en même temps de votre être politique, parce que vous dirigez un grand bateau, la Criée de Marseille, mais en même temps vous êtes quelqu'un qui avait eu le courage et la possibilité psychique peut-être d'accomplir plusieurs mues, et que voilà, et que vous êtes reconnu, et que ça n'a pas toujours été facile.
Non, c'est vrai, bien sûr, mais entendre Agnès Varda, c'est au-delà du contenu de ce qu'elle dit qui évidemment me bouleverse, vous pensez bien, mais ce qu'on se disait au fond, c'était des secrets, et elle était tellement en avance sur moi artistiquement Et notamment, elle m'a confié des secrets parce qu'elle venait jusque dans l'atelier. Hein. C'est quelqu'un qui venait, elle apportait des brassées de fleurs ou des objets. C'est d'une telle générosité, Agnès, mais généreuse dans le sens de... Elle vous donnait des secrets. Et moi, elle a attiré mon regard sur quelque chose que je faisais, que je ne voyais pas. J'étais comme aveugle, comme aveuglée. Elle m'a parlé de l'immobilité ou de la presque immobilité comme quelque chose d'une puissance artistique incroyable. Et maintenant, désormais, quand je suis devant le plateau, je travaille avec les acteurs, je pense toujours à ce secret qu'elle m'a confié. C'est aussi la solution. Au fond, elle m'a aidée à comprendre ce qu'était le féminisme, que j'essayais de pratiquer maladroitement. Le vrai féminisme, c'est l'admiration. Il passe par là. C'est admirer les femmes qui sont devant nous, c'est admirer les femmes qui sont avant nous, et continuer ce travail d'admiration, sans aucune exclusion de qui que ce soit. Voilà. Mais... C'est quelqu'un aimé, admiré. Quand je parle d'Agnès, c'est la même chose.
Ben merci infiniment, Masha Makeyev. Je choisis de montrer au théâtre le rêve comme lieu de l'incertain, les points cardinaux affolés comme lieu de la liberté, du hasard, de l'attente et de l'imprévisible, le rêve comme outil et matériau poétique, le flou pour dire la fragilité ou le naufrage de nos certitudes. C'est un extrait de votre livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « La zone céleste ». Je rappelle qu'en ce moment même, à Paris, au théâtre de la Scala, se joue votre trisotin « Les femmes savantes » de Molière, et que nous allons continuer en écoutant une femme, et pas n'importe laquelle, je suis sûre que vous l'aimez, c'est Christine, Christine and the Queens, « Les yeux mouillés ».
Même si personne ne se laisse aimer, je désire ce qui tremble, qu'aucune journée ne se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne, je l'ai mouché jusqu'au sang, ma timidité d'adolescent.
Merci à Clément Berman qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses précieux conseils musicaux. Merci à Élodie Royenne, Sophie Dazard, Mathilde Verfailly et Pierre Dindy. Et merci à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission. Vous entendez le top. Il est 21h. Merci d'écouter France Inter. Mais juste avant, Mishka, vous êtes bien là ce soir, comme nous tous, en direct. Ça va être oui. métallique encore ce soir.
Pas du tout, vous allez être très contente.
Mais
allez...
non, mais j'aime beaucoup mais métal, vous allez être... moi, dur.
Alors vous allez être encore plus contente, vous allez danser et ça va être psychédélique. Voilà.
À tout à l'heure, Mishka.